à notre solitude originelle et rien d'autre. Et moi, je crois y être enfin parvenu. » La jeune fille fit une grimace perplexe. « Pardon ? Notre première expérience de vie dans le ventre de notre mère est une expérience solitaire. Dès lors, toute son existence, on cherche l'autre, désespérément. On cherche une âme sœur, une entière compagnie, comme pour soigner cette solitude première, tu comprends ? Et puis les années passent, les illusions s'abîment, et la vie nous apprend à nous préparer à retrouver cette solitude. Ainsi est le sens de la vie. Au contact d'autrui, il s'agit d'accepter qu'un jour nous serons seuls à nouveau. Et l'accepter n'est pas une mince affaire, je te l'accorde. Mais je crois y être parvenu. Je suis prêt. » C'est horrible ce que vous dites. Non. C'est de ne pas l'accepter qui est horrible, Alice. Mais rassure-toi, si le chemin est long, il est aussi fort beau. Tu verras. Tu n'as même pas 15 ans. En route, nous vivons de belles choses. Et je crois que ce sont ces choses, justement, qui nous aident à accepter notre sort. » La jeune fille fit une moue sceptique. « Pour l'instant, mon chemin à moi n'a rien de réjouissant. C'est sans doute que tu ne vis pas ta vie, Alice. Tu occupes ton esprit à te plaindre de l'injustice de ce monde, comme s'il t'était redevable. Mais le monde ne te doit rien. Personne ne te doit rien. Tu es seul. Nous sommes tous seuls. C'est à toi de faire de ta vie un agréable chemin. Si tu comptes sur les autres pour donner un sens à ton existence, tu cours à la catastrophe. Peut-être devrais-tu arrêter de subir une vie qui n'est pas la tienne et commencer celle qui te donnera satisfaction. La vie est une route. Tu peux choisir de traîner les pieds, de marcher sur le bas-côté. Tu peux choisir de suivre le troupeau sans lever le front. Ou bien tu peux chercher ton propre chemin, sans te soucier de celui qu'on veut t'obliger à prendre. Décider que nul autre ne peut marcher à ta place. C'est à toi de voir. Tu as deux routes possibles, mon enfant. Celle qu'on ouvre pour toi, ou celle que tu te dessineras toi-même. » La jeune fille hocha lentement la tête. Elle n'était pas certaine de comprendre exactement tout ce que Zacharias voulait dire, mais elle était convaincue que ses paroles allaient résonner longtemps en elle. Le vieux juif lui avait déjà, par le passé, raconté bien des histoires, livré bien des secrets, mais jamais il ne lui avait parlé ainsi, aussi directement, sur ce ton presque paternel, avec la solennité d'un discours définitif, comme si c'eût été le dernier. Et à vrai dire, personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne. Ses yeux, alors, glissèrent vers l'instrument de musique posé sur une petite étagère derrière le vieil homme. Chaque fois qu'elle venait ici, elle ne pouvait s'empêcher de regarder cet antique instrument comme on regarde un trésor. Et d'une certaine façon, il s'agissait bien d'un trésor. Un trésor aussi précieux sans doute que les paroles du vieux juif. Chapitre 10. Malgré le froid qu'il y avait devant l'église de l'hôpital Sainte-Catherine, qui était à l'angle méridional formé par les rues Saint-Denis et des Lombards, et où se tenaient toutes les cérémonies officielles de la confrérie des apothicaires, il y avait, disons-nous, un remarquable attroupement. À cette vue, Andreas poussa un soupir là. D'un seul coup d'œil, il avait reconnu la plupart des visages qui s'étaient tournés comme il approchait avec Jehan. Les apothicaires des environs, et ils étaient nombreux, leurs apprentis, leurs compagnons, leurs valets et même le censier de Bourg-l'Abbé, tous étaient venus, la plupart de mauvais gré sans doute, car la renommée d'Andreas Saint-Loup était telle qu'on se dut d'assister au rituel de maîtrise de son apprenti. Il lui sembla même distinguer un sergent de ville.